vue de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du vendredi 2 septembre 2022. Bonjour à toutes et à tous en direct de Washington et de Rissa Sebulia. Tout d'abord les titres. En République démocratique du Congo, au moins 14 civils ont été tués dans des combats en Ituri. En Guinée équatoriale, un ex-ministre de la justice détenu pour avoir critiqué le président Teodoro Obiang-Nguema. En Angola, l'opposition dépose un recours pour contester les résultats des législatives. Au Sénégal, nouveau drame autour de l'accouchement, 3 agents de santé arrêtés. Le président démocrate Joe Biden attaque directement son prédécesseur républicain et ce qu'il a appelé l'extrémisme de Donald Trump. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. En République démocratique du Congo, les corps de 14 civils et de 8 miliciens ont été retrouvés dans la brousse hier, après 2 jours de combat entre l'armée et une milice en Ituri, dans le nord-est du pays. Jacques Aristide.
Les militaires congolais menaient une opération pour repousser les éléments de la CODECO, la coopérative pour le développement du Congo, venue attaquer la ville minière de Mongualou pour libérer des personnes arrêtées par l'armée. Les corps ont été découverts par les forces de sécurité alors qu'elles ratissaient l'endroit, a indiqué hier à Jean-Pierre Bilikisende, bourgmestre de la commune rurale de Mongualou, ajoutant que la situation était sous contrôle. Il a appelé la population calme tout en exhortant les miliciens à attendre leur désarmement. La région aurifère de l'Ituri a renoué avec les violences depuis fin 2017, avec l'avènement de la CODECO, un groupe armé structuré autour d'une secte religieuse qui prétend défendre les communautés lendou contre les Hema. La CODECO est considérée comme l'un des groupes les plus meurtriers de l'Est congolais. En plus des civils et des militaires, cette milice s'attaque également aux déplacés et aux humanitaires. Ce même groupe avait kidnappé des émissaires du président Félix Tshisekedi qui les avait envoyés sur place pour négocier un cessez-le-feu.
Au Tchad, les forces de l'ordre ont arrêté jeudi 84 jeunes militants d'un parti de l'opposition pour manifestations non autorisées et troubles à l'ordre public selon la police, alors qu'ils exhortaient les habitants à participer à un meeting contre un dialogue de réconciliation nationale qu'ils qualifient de monologue organisé par la junte. Une caravane de militants du parti Les Transformateurs sillonnait les rues de la capitale N'Djamena pour convaincre les gens d'assister au meeting prévu samedi. La Guinée équatoriale a placé en détention un ancien ministre de la Justice qui avait critiqué le président Teodoro Obiang-Nguema. C'est ce qu'affirment son frère et l'opposition, ajoutant être sans nouvelles de lui depuis 3 semaines. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
L'ancien ministre de la Justice, Ruben Maye Nsoué Mangé, a été arrêté dans la nuit du 7 août dans la ville de Mongomo, dans l'Est, après avoir été convoqué à une réunion du parti au pouvoir, soutien l'un de ses frères, Ruben Mounsoui. Il ajoute que M. Mangé a été emmené dans un lieu inconnu, après avoir refusé de s'excuser auprès du chef de l'État. 5 jours après l'arrestation de l'ex-ministre, qui est aussi un membre du clergé, le ministre de la Justice lui a intimé l'ordre de ne plus prêcher, l'accusant de provoquer des troubles. Le 25 juillet, l'ancien ministre de la Justice a critiqué dans une note vocale WhatsApp devenue virale la gestion du pays par le président, le décrivant comme, je cite, « un démon qui tient son peuple prisonnier », fin de citation, et appelant au dialogue national. Ruben Maye a été ministre de la Justice de 1998 à 2004, puis nommé ambassadeur aux États-Unis en 2013. Les groupes de défense des droits humains accusent souvent les autorités de la Guinée équatoriale de nombreuses violations, mais Malabo a toujours rejeté ces allégations.
L'UNITA, le principal parti d'opposition en Angola, a annoncé hier avoir déposé à la Commission nationale électorale un recours pour contester par la voie légale les résultats du scrutin législatif donnant la victoire au parti au pouvoir et un second mandat au président sortant João Lourenço. La procédure pour contester les résultats d'un scrutin prévoit que le recours légal soit déposé d'abord devant la commission électorale avant que le tribunal constitutionnel ne se prononce. Au Sénégal, 3 agents de santé ont été placés en garde à vue après le décès d'une femme enceinte et son bébé. Ces décès, souligne-t-on, mettent en lumière les carences du système de santé dans ce pays après une série de drames, dont celui de Tuaouane. Le point avec Mohamed Humfa.
Une femme et le bébé qu'elle portait sont décédés dans la nuit de mardi à mercredi lors de l'accouchement dans un centre de santé de Kédougou, selon un représentant syndical. 3 personnes ont été arrêtées depuis mercredi. Elles sont en garde à vue à la gendarmerie de Kédougou pour négligence, a-t-il dit, précisant qu'il s'agit d'un gynécologue, d'un anesthésiste et d'un infirmier. Selon la presse sénégalaise, Diura Diallo était en état de grossesse très avancé et dont l'âge n'a pas été précisé quand elle s'est présentée mardi soir au centre de santé. Elle est décédée après avoir abondamment saigné et à la suite d'une césarienne ratée, lors de laquelle le bébé a subi des blessures avant de décéder. Ces décès mettent à nouveau en lumière les carences du système de santé au Sénégal après une série d'accidents fatals. Le 7 avril, Astou Sokna, la trentaine, mariée et enceinte de 9 mois, est décédée à l'hôpital de Louga dans le Nord après avoir attendu pendant 20 heures la césarienne qu'elle réclamait. Le 25 mai, 11 bébés ont péri dans un incendie à l'hôpital de Tivouane, dans l'Ouest. 4 nouveaux-nés avaient également péri dans l'incendie d'un service de néonatologie à l'hôpital de Linguère, dans le Nord, en avril 2021. Le président Macky Sall avait reconnu l'obsolescence du système de santé et ordonné son audit après le drame de Tivouane.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Prononçant un discours à Philadelphie, la ville de la Pennsylvanie qui fut le berceau de la démocratie américaine, le président Joe Biden a dénoncé hier jeudi ce qu'il a appelé l'extrémisme de Donald Trump et de ses partisans, leur reprochant d'ébranler les fondations de la démocratie américaine. Le point avec Nanit Talani.
Ce discours de M. Biden est une rare attaque directe contre son prédécesseur républicain Trump. Au pied de l'Independence Hall, où furent adoptées la Déclaration d'indépendance et la Constitution américaine, il a affirmé
Donald Trump, and the MAGA Republicans
Donald Trump et les républicains MAGA représentent un extrémisme qui menace les fondations mêmes de notre République.
L'ancien président et ceux qui souscrivent à son idéologie Make America Great Again ne respectent pas la Constitution. Ils ne croient pas à l'état de droit. Ils ne reconnaissent pas la volonté du peuple, a martelé le président démocrate, tout en reconnaissant toutefois que tous les républicains n'adhèrent pas à cette idéologie extrême. Puis il a ajouté, il ne fait aucun doute que le parti républicain d'aujourd'hui est dominé, entraîné et intimidé par Donald Trump et ses partisans. Quand, pendant son discours, un groupe d'opposants réunis à proximité ont lancé en chœur des insultes contre lui, il a rétorqué « Ils ont le droit de s'indigner, c'est la démocratie », avant d'ajouter « Ils n'ont jamais été étouffés par les bonnes manières ». Dans une réaction, Donald Trump a publié sur son réseau social Truth une image de Joe Biden brandissant les 2 poings et une photo de lui-même en train d'embrasser un drapeau américain.
Toujours aux États-Unis, à Jackson, capitale du Mississippi, les quelques 150 000 habitants des Africains-Américains en majorité ont été encore privés d'eau courante saine. Les autorités ont demandé à ceux disposant encore d'une alimentation en eau de se doucher bouche fermée. Michel Joseph.
Depuis le début de la semaine, la ville de Jackson est plongée dans une situation d'urgence. Des inondations ont perturbé le fonctionnement d'une usine de traitement des eaux. En ouvrant leur robinet, les habitants ne voient que quelques gouttes ou bien une eau boueuse. Et ce qui reste ne doit surtout pas être bu, ont prévenu les autorités. Sous la douche, assurez-vous que votre bouche n'est pas ouverte parce qu'il ne faut pas avaler cette eau a déclaré mercredi Jim Craig, des autorités sanitaires du Mississippi. La ville a annoncé hier une légère amélioration, car certains quartiers ont commencé à retrouver de la pression. Face à l'urgence, l'usine de traitement des eaux a fait en une nuit des progrès significatifs, précise la mairie. Mais la vie au quotidien a été comme un cauchemar. Les écoles ont dû repasser à l'enseignement à distance. Les hôtels et restaurants, déjà sur la corde raide, ne peuvent pas ouvrir, doivent s'adapter ou mettre la clé sous la porte, selon Jeff Brent, président de la Chambre de commerce de Jackson. Cette situation rappelle l'un des pires scandales sanitaires de l'histoire américaine, celui de l'eau contaminée de Flint, dans le Michigan.
L'intégrité physique de la centrale nucléaire ukrainienne Zaporizhzhia, occupée par les Russes, a été violée à plusieurs reprises, a dénoncé jeudi, après l'avoir inspecté, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique. La Minute Éco, Nathalie Barge.
En Afrique du Sud, la justice a confirmé l'interdiction à Shell de mener une exploration sismique au large de la Wild Coast pour la recherche de pétrole et de gaz dans les zones du Transkei et d'Algoa. Cette côte de l'océan Indien compte plusieurs réserves naturelles et des aires marines protégées. Le tribunal a reproché à la compagnie pétrolière de ne pas avoir démontré que cette activité profiterait à la communauté locale. Selon Greenpeace, près de 150 projets pétroliers et gaziers sont en cours de réalisation en Afrique. Le Fonds monétaire international a accordé un soutien de 1,3 milliard de dollars à la Zambie dans le cadre d'un accord entre les créanciers pour restructurer sa dette. Ce programme prévu sur 3 ans vise à rétablir la viabilité de la dette, créer un espace budgétaire pour les dépenses sociales indispensables et renforcer la gouvernance économique, indique le FMI. Selon les dernières statistiques de l'UNESCO, 244 millions d'enfants dans le monde ne vont pas à l'école. 98 millions d'entre eux, soit plus de 40%, vivent en Afrique subsaharienne, dont 20 200 000 au Nigeria, 10 500 000 en Éthiopie, près de 6 millions en République démocratique du Congo et de 2 millions au Kenya. Toutefois, l'écart entre les genres s'est réduit à zéro, remarque l'UNESCO, soulignant la persistance de disparités régionales.
Merci Nathalie. Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
La Guinée s'engage à tenir le calendrier de la CAN 2025.
Oui, c'est le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, qui en a pris l'engagement après avoir reçu mercredi à Conakry une mission de la Confédération africaine de football. Cette délégation de la CAF est venue s'enquérir de l'avancement du programme alors que le doute persiste quant à la capacité de la Guinée de le réaliser. Lansana Béa Diallo, ministre guinéen des Sports.
La Guinée n'a aucun intérêt à s'humilier face à cette grande dynamique. Donc nous, on va essayer de respecter le cahier de charge et respecter les échéances que nous avons fixées la CAF. Il y a une chose qui est claire, c'est que nous ferons toutes nos infrastructures et qu'on sera prêt à temps. Maintenant, c'est la CAF qui décidera si nous l'organisons ou pas. Il y a une chose qui est claire aussi, si on fait nos infrastructures, qu'on a respecté nos délais et qu'on donne la CAF à quelqu'un d'autre, et toutes nos infrastructures, on les aura construites gratuitement pour le pays. Donc c'est une chose extraordinaire pour nous, parce que la CAF nous remboursera tout ce qu'on nous rend bien.
C'était Lansana Béa Diallo, ministre guinéen des Sports, cité par le comité organisateur. L'un des membres de la mission, le Béninois Marturin de Chakus, a affirmé que la délégation est rassurée des dispositions de la Guinée.
La FIFA interdit à un haut responsable du Zimbabwe toute activité liée au football.
L'instance mondiale du ballon rond a banni Obert Zoya, ancien secrétaire général de la commission des arbitres du Zimbabwe, de toute activité liée au football pendant 5 ans. Il est aussi condamné à une amende de 20 400 dollars par le comité d'éthique de la FIFA. Il lui est reproché d'avoir harcelé sexuellement 3 arbitres. La FIFA a déclaré dans un communiqué qu'après une analyse minutieuse des déclarations écrites des victimes, Zoya a été reconnu coupable d'avoir abusé de sa position pour harceler sexuellement 3 femmes arbitres de la Fédération zimbabwéenne de football. La FIFA n'a fourni aucun détail sur l'affaire, mais a déclaré qu'elle révélerait les raisons de la décision dans les 60 jours.
Basketball, Donovan Mitchell rejoint les Cleveland Cavaliers.
Le joueur 3 fois All-Star NBA quitte le Utah Jazz pour Cleveland en échange contre 3 joueurs Colin Sexton, Lowry, Markkanen,
Ochai Agbaji et trois choix de repêchage de la NBA. Sexton, 23 ans, a signé un contrat de 4 ans d'une valeur de 72 millions de dollars en se rendant au Jazz. Mitchell a inscrit en moyenne 25,9 points et capté 4,2 rebonds par match la saison dernière.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédounia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, plus de passages entre la province du Kwilu et celle de Maïndombe vers Kinshasa. La route nationale numéro 17 est fermée depuis mardi à 25 km du Kwilu, ont affirmé les autorités locales. La route est barricadée par la population Bateke du Maïndombe qui refuse le passage aux ressortissants du Kwilu et du Kwango voulant se rendre à Kinshasa. Les Bateke du Maïndombe reprochent aux ressortissants du Kwilu voisin d'être en connivence avec les milices Bayaka. La gouverneure du Maïndombe affirme avoir envoyé des militaires sur place pour rétablir l'ordre. Les explications de notre correspondant à Kinshasa, Alex Kati-Kataï.
Les voyageurs qui quittent Bandundu-Ville pour Kinshasa ne peuvent plus traverser la province du Maïndombe voisine. La route nationale numéro 17, la plus rapide et la plus pratique entre les Kwilu et la capitale Kinshasa, est fermée depuis mardi. Des miliciens Bateke, munis d'armes blanches et à feu, interdisent le passage aux populations des provinces voisines du Kwilu et du Kwango. Ils leur reprochent de soutenir leur frère Bayaka dans les conflits qui les opposent aux Bateke. Félicien Kiwai, vice-gouverneur du Kwilu, revient de la région.
Les gens que moi je viens de rapatrier, ils me témoignent que non, la bagarre était terrible entre Teke et Yaka. Mais les autres, après cet affrontement, ils ont généralisé pour les tribus comme les Mbalal, les Soukou, les Ungani et d'autres qui sont d'origine du Kwilu. Et comme la route traverse le Maïndombe et va dans les Kwilu, alors les véhicules qui passent par là transportent la majorité des Kwilois. C'est pourquoi ils ont érigé des barrières pour les identifier.
Entre mardi et mercredi, 5 personnes ont été tuées à Kambankou, à 25 km de la frontière avec la province du Kwilu. Elles ont été tuées lors d'un contrôle d'identité aux barrières érigées par les miliciens Bateke. Même le ministre provincial de Finances du Kwilu, qui revenait d'une mission à Kinshasa et a échappé belle, affirme Félicien Kiwai, vice-gouverneur du Kwilu.
Notre ministre de Finances était en mission de service à Kinshasa. Il est rentré juste à 25 km de la rivière Kwilu, le village Kambankou du Maïndombe, où se trouvent aussi des peuples Teke. C'est un grand village à environ 1 km. L'entrée comme la sortie a des barrières. Et donc c'est comme ça que le ministre a eu la vie sauve, grâce aussi à son garde-corps. Et récemment aussi le garde-corps, il a tellement grimacé, voilà, il a eu l'ouverture de la route.
La fermeture de la nationale numéro 17 est préventive et a été décidée par les autorités du Kwilu pour éviter de nouvelles tueries, a précisé Félicien Kiwai. Au Maïndombe, on affirme avoir pris des dispositions pour remettre de l'ordre et rendre le trafic sécure. Une sécurité qui n'est pas encore établie pour le moment. Rita Bola, gouverneur du Maïndombe, en appelle à l'implication des autorités du Kwilu voisin.
La route là, c'est une route à intérêt commun avec Bandundu, la province. Nous avons déjà envoyé les moyens pour que les militaires puissent venir. Sauf que les civils qui ont bloqué la route en fait, par ras-le-bol de la famine et tout. Donc nous avons envoyé déjà les fonds pour que les militaires soient déployés en ces lieux-là pour enlever les barrières. Mais là, il n'y a aucun bus qui est autorisé de passer et tout. Les militaires nous appellent que depuis hier qu'ils ont reçu les fonds, ils ne peuvent pas arriver sur les lieux. Alors que Bandundu-Ville, l'autre province voisine, est juste à 25 km de cette barrière. J'ai demandé personnellement au vice-gouverneur de là de faire quelque chose.
Le dernier bilan avancé par le ministère de l'Intérieur fait état de plus de 30 morts et plusieurs blessés et déplacés depuis le début de ces conflits entre les Bateke et les Bayaka. Alex Kati-Kataï, Kinshasa, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi et sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
Le Rwanda et l'Ouganda s'engagent à collaborer davantage encore pour surmonter les défis sécuritaires de la sous-région et développer les projets d'intérêt commun. annonce faite ce jeudi à Kigali à l'occasion d'une visite du ministre ougandais des Affaires étrangères et de la coopération, le général Odongo Djedje Aboubakar. Notre correspondant sur place, Jean Damascène Manishimwe.
Améliorer les relations entre le Rwanda et l'Ouganda, développer les projets d'intérêt commun entre les deux pays sont entre autres les points qui ont largement occupé les échanges entre le ministre ougandais des Affaires étrangères de la coopération, le général Odongo Djedje Aboubakar et son homologue rwandais Vincent Biruta. Le diplomate rwandais a laissé entendre que les relations entre son pays et l'Ouganda sont au bon fixe, précisant que les commissions de coopération bilatérale qui ne se rencontraient pas depuis 2012 vont bientôt reprendre. Principalement, nous nous sommes entendus sur la tenue de la réunion d'une commission conjointe permanente avant fin mars prochain, en vue d'évoquer la coopération dans divers domaines comme la sécurité, le commerce et les échanges, la justice ainsi qu'à la circulation des personnes et des biens. Les deux parties ont également évoqué les problèmes sécuritaires de la République démocratique du Congo voisine qui affectent d'une façon ou d'une autre le Rwanda et l'Ouganda. Le ministre ougandais a indiqué que les deux pays doivent unir leur voix et appuyer les décisions arrêtées par les chefs d'État de la région à Nairobi pour trouver une issue à la crise congolaise, car il y va de la sécurité de l'Ouganda comme du Rwanda.
Both Uganda and Rwanda have concerns about our own security.
Le Rwanda comme l'Ouganda sommes préoccupés par les menaces de notre propre sécurité provenant de notre voisin de l'Ouest. Nous avons eu connaissance des actions entreprises par nos supérieurs lors de leur conclave à Nairobi, cela pour appuyer les aspirations de paix et de sécurité du Rwanda et de l'Ouganda et vivre paisiblement sans crainte venant des voisins.
Uganda, living without fear from our neighbors.
Depuis 2017, le Rwanda et l'Ouganda entretenaient des relations tendues, ce qui avait entravé les échanges entre les populations des deux pays. Il a fallu attendre environ 5 ans pour voir les signes forts de rapprochement, avec début 2022 de la visite à Kigali du fils aîné du président ougandais Yoweri Museveni, aussi commandant de l'armée de terre, le général Muhoozi Kainerugaba. Le rapprochement entre le Rwanda et l'Ouganda s'est accentué avec la visite du président Paul Kagame en Ouganda en avril 2022, suivie de celle de Yoweri Museveni au Rwanda à l'occasion du sommet des chefs d'État et de gouvernement du Commonwealth tenu à Kigali en juin dernier. Jean Damascène Manishimwe à Kigali pour VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Le Cameroun et la République du Congo ont convenu de délimiter leurs frontières afin de réduire les différends entre les communautés frontalières. Des accords similaires ont été conclus récemment avec le Gabon et la Centrafrique. Les défenseurs de l'environnement affirment que des frontières bien définies permettront de lutter plus efficacement contre le braconnage dans le bassin du Congo. Reportage de Moki Edwin Kinzeka, récit de Nathalie Barge.
Le Cameroun et la République du Congo disent vouloir faire de leurs frontières communes des zones de paix et de développement afin de mettre fin à la rivalité des communautés frontalières sur les ressources naturelles. Jacques Essisongo, directeur de l'administration territoriale du Congo.
L'on admet que cette première réunion des experts en matière de frontières va donc baliser le chemin des travaux de terrain aux fins de démarcation et réaffirmation effective de notre frontière commune, longue de 460 km, dont environ 140 km de segment de frontière terrestre et 320 km environ de segment de frontière fluviale décrite par le texte historique de la Convention La frontière entre le Congo français et le Cameroun, signée à Berlin le 18 avril 1908.
Selon le document signé à Berlin, le Congo et le Cameroun partagent une frontière terrestre et fluviale de 460 km. Les deux pays utilisent comme document d'orientation la carte des frontières dessinée par les anciennes puissances coloniales allemandes et françaises en 1908. Paul Atanganji, ministre camerounais de l'administration territoriale, a conduit la délégation du pays à la réunion de démarcation des frontières.
Les experts iront sur le terrain pour marquer les bornes et faire un rapport complet sur toutes les questions frontalières entre le Cameroun et la République du Congo. Nous avons travaillé en étroite collaboration sous la direction de deux chefs d'État. Ils nous ont donné tout le soutien pour que nous fassions notre travail. Ils nous ont donné toutes les facilités et nous sommes très à l'aise dans l'exercice de ce mandat qui nous a été attribué.
Le bassin du Congo regorge d'espèces animales et végétales uniques. Les populations frontalières traversent les frontières à la recherche de ressources, ce qui provoque des conflits communautaires. Selon Ophir Drori, directeur d'Eagle Network, qui lutte pour la protection des espèces sauvages, la démarcation des frontières permettra aux défenseurs de l'environnement d'améliorer leurs activités anti-braconnage.
La situation du braconnage dans le nord du Congo est assez grave et nous avons de nombreuses opérations dans la région. Une partie se dirige vers le sud-est du Cameroun. Nous essayons de lutter en particulier contre le braconnage des pangolins et le commerce illégal des écailles de pangolins de la Centrafrique vers le Cameroun. Eagle s'occupe de ces aspects dans les opérations d'arrestation avec les gouvernements.
La délimitation des frontières comprend la plantation de piliers détruits par l'érosion, les inondations ou des communautés rivales. Les zones frontalières du bassin du Congo sont fréquemment marquées par des affrontements liés aux ressources naturelles.
En Côte d'Ivoire, l'ambassade des États-Unis apporte son soutien à la lutte contre le paludisme. L'ambassadeur américain a effectué une visite à Anikwajoko et Anasue, deux sous-préfectures d'Abengourou dans le centre du pays. Il s'est entretenu avec les femmes et agents de santé bénéficiaires d'un appui de l'ambassade. Le point avec Delphine Boïse, notre correspondante à Abidjan.
L'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire soutient la lutte contre le paludisme dans la prise en charge des femmes enceintes et des enfants. Docteur Antoine Tanomea, directeur du programme national paludisme.
En dehors du Fonds mondial qui nous appuie jusqu'à aujourd'hui, nous menons d'avoir aussi le financement du Fonds présidentiel américain que nous allons passer à échelle. Et surtout la prise en charge des maladies intégrées de l'enfant, c'est-à-dire la prise en charge de la diarrhée, de la pneumonie et du paludisme.
Anikwajoko et Anasue sont deux localités dans le département d'Abengourou dans le centre du pays où s'exécutent des projets de l'ambassade américaine. Des groupements d'agents de santé et de femmes sont les acteurs de ces projets. Yvonne Amenan-Kouassi donne des conseils aux populations locales.
Quand on veut assainir son milieu, on n'a pas besoin de moyens coûteux. Vous prenez votre tabac, vous prenez votre machette, vous prenez vos balais et vous faites de telle sorte que tout autour de soi soit propre.
Ces groupements de femmes d'Anasue et de Anikwajoko sont bien mobilisés.
Palais Marie-Gisèle, sage-femme au CSU, Daniel Sui, superviseur du groupement féminin. Nous sensibilisons la population sur le paludisme et autres affections pour pouvoir améliorer l'état de santé de la communauté. À Moncon, à quoi Victorine. Je suis la présidente des groupements des femmes. Nous faisons des sensibilisations comme le paludisme par rapport aux femmes enceintes ou aux enfants de 0 à 5 ans.
L'exercice de pulvérisation est mené par les agents de santé dans le village d'Anasui. Jonas Kofi est l'un des techniciens.
Nous pulvérisons cette fumée pour détruire les moustiques adultes.
Réaction des habitants comme ce jeune père, César Kouablan.
Nous pensons que
après cette opération, nous allons pouvoir quand même dormir tranquille avec nos nouveaux bébés, les nouveaux-nés.
Et l'ambassadeur des États-Unis a fait le déplacement et s'est dit honoré des résultats. Richard Bell.
Il n'y a rien de plus précieux que la vie humaine. Il faut une bonne santé pour pleinement jouir de la vie humaine. Et je suis content de savoir que mon pays, les États-Unis d'Amérique, travaille de très près avec la Côte d'Ivoire depuis longtemps, surtout dans le domaine de la santé publique, parce que ça démontre que nous croyons vraiment en la valeur de la personne humaine en Côte d'Ivoire.
Et ces actions pourraient, à n'en point douter, faire baisser le taux des décès liés au paludisme dans le pays. Delphine Bowie, Abidjan, VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde d'aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Segulia, à la mise en onde, Georges Léonard Sagno, à la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de